Oui, alors avant de repasser la parole à Michael Schenker sur les documents économiques de NISA, je voudrais revenir sur deux points qui ont été discutés dans les séances précédentes parce que, on a été amené à discuter entre nous, à pousser plus avant les lectures, et on peut faire deux remarques. Sur la question de ce qu'on appelle maintenant la maison carrée, après l'avoir longtemps appelée la trésorerie, et donc maintenant il y a des doutes sur le fait qu'elle ait été trésorerie depuis le début. Donc vous savez que les ostracas, dont Michael va reparler maintenant, ont été trouvés dans un ensemble un cellier qui comportait 10 pièces, construit juste à côté de cette maison carrée. Évidemment, comme ce cellier s'identifie de lui-même, puisqu'on y a trouvé des grosses jarres à vin, donc la tendance naturelle est on a vu tout de suite que le contenu économique des ostracas est en rapport direct avec la nature du bâtiment dans lequel on les a trouvés. Oui, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Parce que, en fait, c'est Philippe Coe qui, une fois de plus, a eu quand même le très très grand mérite de reprendre la totalité du dossier de fouilles, y compris les archives. Philippe Coe a attiré l'attention sur un point curieux, qu'en fait les ostracas sont sans rapport chronologique avec les jarres à vin. Alors, parce que voilà, on les a, ils sont indiqués, ça, ici c'est la stratigraphie. Donc vous avez ici le sol vierge, qui je crois ici c'est plutôt de la pierre. Bon. Ici un remblai. Et ce n'est pas un remblai entre deux sols. C'est un remblai de construction destiné à niveler les bâtiments, les locaux à l'intérieur, parce qu'ici, ce n'est pas un sol. C'était à ciel ouvert, il y a des couches des couches de pluie, etc. Ici, c'est l'écroulement du bâtiment. Ici, mur. Les ostracas sont indiqués donc par ces petites barres noires. On n'en a pas trouvé un seul au-dessus, au niveau du sol. Sol depuis lequel avaient été enfoncées les jarres à vin. Il ne faut surtout pas croire que les jarres étaient posées et que le sol a monté. C'est que on enfonçait le cul des jarres dans le remblai. Bien. Elles ont toutes été trouvées dans le remblai et pas sur le sol de fonctionnement. Donc, et on en a même trouvé certains sous les murs. Donc, ces ostracas qui datent tous d'entre environ moins 140 et moins 13, venaient d'un cellier qui n'était pas celui-là. Alors, à partir de là, il y a deux hypothèses possibles. Le cellier auparavant était ailleurs, et puis à partir de moins 13 environ, on a construit le cellier ici, et dans l'ensemble des matériaux détritiques qu'on a utilisés pour niveler les sols intérieurs, on a récupéré ces ostracas qui ne servaient plus parce que, hypothèse vraisemblable, c'était en fait des brouillons que les trésoriers progressivement transféraient sur un support de type parchemin. C'était des tickets de caisse, quoi. Et puis les vraies pièces comptables étaient faites sur parchemin. Alors, un cellier qui se serait trouvé ailleurs, ou peut-être, et c'est plutôt cette hypothèse-là que j'aurais tendance à préférer, un cellier qui se trouvait exactement au même endroit. Et à un certain moment, on a décidé de le reconstruire à neuf. Alors, on sait que avec ce type de construction en briques crues en Asie centrale, c'est beaucoup plus. Au bout d'un certain temps, quand le bâtiment s'use, on ne cherche pas véritablement à l'entretenir et à le retaper. C'est beaucoup plus économique de tout raser et de tout reconstruire. On garde des vieux murs quand il s'agit de gros murs massifs en blocs de terre, dits par ça des blocs de pisé. Mais quand il s'agit de murs comme ça en briques crues, on rase tout. Et en fait, on rase au sol, puisque ces murs pourrissent en général par la base. C'est généralement les infiltrations d'eau, les rats, etc., se mettent plutôt, les parties les moins saines sont plutôt les plus basses. Donc, on ne va pas asseoir de nouveaux murs sur des bases pourries. On va tout raser jusqu'au niveau du sol. Alors, c'est peut-être, ça pourrait être l'explication. Ce qui est quand même curieux, c'est que dans ces ostracas, il est fait mention de 9 celliers qui ont chacun leur nom. Et dans le bâtiment qui nous est parvenu et qui est donc postérieur, on a 9 à 10 pièces. Donc, quelque part, ces ostracas semblent provenir d'une vie antérieure du même bâtiment. Bien. Alors, une autre question qui se pose. Si ces ostracas étaient posés sur les jarres à titre d'étiquette, comment se fait-il qu'on n'en a retrouvé aucun dans ce niveau de fonctionnement ? Alors, est-ce que, avant l'abandon final du local, il y aurait eu un ultime nettoyage ? On aurait récupéré tous ces documents comptables éphémères et en les retranscrivant, on les aurait jetés ailleurs. Une autre hypothèse qui n'est pas forcément à écarter, c'est qu'en 13 avant Jésus-Christ ou aux environs, on a changé de technique comptable. On a cessé, les ostracas, l'usage des ostracas était passé de mode, on trouvait peut-être plus ça très commode, et on est passé directement, on a à ce moment-là tout fait basculer sur une comptabilité écrite à l'encre. C'est pas impossible. En tout cas, c'est un intéressant problème chronologique. Alors, la vue suivante. Alors, ceci sort d'une conversation que j'ai eu avec Henri-Paul Francfort à l'issue du précédent séminaire. Vous vous rappelez que parmi les grands bâtiments de Vieille-Nisa, il y a ce qu'on appelle le bâtiment tour, que la plupart des archéologues ont considéré comme, même Paul Bernard, ont considéré comme le temple tour. Ce bâtiment, on en connaît un très puissant soubassement qui se montait à 7,50 m de hauteur en briques crues, sur lequel était posé un bâtiment qui a été détruit par le premier fouilleur, mais dont on sait qu'il avait qu'il était entouré, semble-t-il, de colonnes de briques, et qui comportait un décor qu'on a ramassé en morceaux dans les détritus, avec des scènes qui ne sont pas des scènes religieuses, qui sont des scènes guerrières, de bataille, où, semble-t-il, on reconnaît des gens de la steppe. Bien. Alors, Henri-Paul Francfort m'a fait remarquer que ce schéma, édifice périptère posant sur un puissant socle et comportant des scènes guerrières, on l'avait tout simplement au plus célèbre des tombeaux de l'Antiquité, le mausolée d'Halicarnasse, construit vers 350 avant Jésus-Christ. Alors, c'est certes l'exemple le plus monumental, mais en fait, il y en a d'autres. On a d'autres exemples de monuments funéraires juchés sur des plateformes, à commencer par l'Héroon au caveau de pierre d'Aïranoum, qui est aussi sur une petite plateforme, le bâtiment que j'ai montré à Nouvelle-Nisa, que j'identifie aussi comme un mausolée. Bon, alors évidemment, on n'est pas à la même échelle. Au mausolée d'Halicarnasse, la plateforme fait à peu près 20 mètres de haut et elle est en pierre. À Nisa, elle fait 7,50 mètres et elle est en brique. Mais on ne peut pas ne pas penser à quelque chose comme ça. Alors, entre-temps, nous nous sommes aperçus, Mike Oshenkar et moi, que Pilipko avait déjà eu la même idée. Il a fait la comparaison avec le mausolée d'Halicarnasse à l'appui d'une hypothèse qui ferait du bâtiment tour de Nisa un mausolée royal. Pougatchenkova, ce que j'ai lu pour le moment de Pougatchenkova n'en fait pas état, mais ce bâtiment, le bâtiment tour, n'a été connu qu'assez tard, après qu'elle ait fait son grand livre sur l'architecture. Donc, c'est possible aussi que ça lui ait traversé l'esprit. Alors, du coup, lâchant un peu plus la bride encore à l'hypothèse, je me demande si on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin. Qui aurait pu, si c'est vraiment un mausolée royal, qui aurait pu être honoré comme ça à Vieille-Nisa ? Alors évidemment, on pense à Mithridate, fondateur de la ville. Et il y a déjà eu, on a déjà rencontré l'hypothèse selon laquelle la mystérieuse salle ronde où on a un portrait de Mithridate, aurait été l'Héroïne de Mithridate. Oui, enfin, bon, il n'est pas certain d'abord que Mithridate soit mort dans ces régions. Son règne, il l'achève en Mésopotamie, à Babylone. Le fait de l'hypothèse de l'Héroïne de Mithridate pour la salle ronde se heurte quand même au fait que dans son premier état, elle a trois entrées, ce qui paraît quand même un peu insolite pour un bâtiment funéraire. Alors, on peut penser aussi à son fils, Phraate II, pour deux raisons. Phraate II meurt en héros contre les Sakas. En fait, c'est pas tout à fait aussi héroïque que ça. Il avait appelé les Sakas contre les Grecs, et puis il a battu les Grecs avant que les Sakas n'arrivent. Et quand les Sakas sont arrivés, ils ont demandé d'être payés. Et il n'a pas voulu les payer, et il y a eu une bataille, il y est mort. Bien. En 128 avant Jésus-Christ. Donc, on sait qu'il meurt à l'Est. Oui, enfin, disons qu'il meurt contre les Sakas. Dans les peintures retrouvées au bas du bâtiment, on a des scènes de bataille contre des Sakas. Bien. Alors, maintenant, si on regarde les temples qui sont nommés dans les ostracas de Nysa. Il y en a trois. Le terme employé, le terme générique employé pour tous, c'est Ayazan. Donc Michael va être amené à en reparler. Ce n'est pas le terme qu'on attend le plus, en fait, parce qu'on sait qu'en part, il y avait surtout le terme Atroshan, qui veut dire temple du feu. Bien. Ayazan, en fait, est un mot qui, au départ, signifie plutôt ensemble. Ensemble de sacrifices, lieux, peut-être enclos rituels, etc., mais qui a fini par désigner, qui peut très bien désigner un temple. Alors, on en a trois qui sont nommés. On a l'Ayazan Nanestawakan, donc l'Ayazan où on rend hommage à Nana, la grande déesse Nana, dont on a été amené à parler la dernière fois, mésopotamienne, peut-être syncrétisée avec la déesse iranienne Anahita. On a l'Ayazan Phraatakan, donc le temple de Phraate, et on a un Ayazan non nommé, mais qui pourrait être l'un des deux précédents si c'était évident, s'il y en avait eu qu'un dans la ville, par exemple, et tout le monde savait lequel c'était. Bien. Alors, il existe donc un Ayazan Phraatakan. À partir de là, on peut dire, bon... ça peut être un temple qui a été bâti sur un terrain qui avant appartenait à Phraate et puis à un certain Phraate. Ça peut être un temple dédié par le roi Parthe, Phraate. Ça peut être le temple consacré aux célébrations funéraires de Phraate. Auquel cas, les hypothèses se rejoindraient. Bien. On ne peut pas aller au-delà, mais... je pense que le rapprochement avec le mausolée d'Halicarnasse a été fait. L'idée que l'Ayazan Phraatakan pourrait être le monument funéraire de Phraate II a été émise, mais les hypothèses ne se sont jamais rencontrées. Je pense que c'est pas illégitime de suggérer que peut-être elles pourraient se rencontrer. Voilà. Et donc, sans plus attendre, je vais passer donc la parole à Michael, qui va terminer sa présentation du contenu religieux des ostracas, après quoi j'interviendrai de nouveau sur quelques points.
Merci, Franz. La semaine dernière, nous avons parlé des divinités qui sont attestées dans la nomastique nicienne. Donc maintenant, je voudrais continuer avec quelques observations. Comme nous l'avons constaté, Mithra est le nom divin le plus populaire dans la nomastique nicienne. Ce n'est peut-être pas par hasard que Srausha et Rashnu, qui sont étroitement liés à Mithra dans les textes zoroastriens de Moyen Perse, en tant que la triade du jugement des âmes dans l'au-delà, soient eux aussi très présents dans le même contexte. Ces rôles eschatologiques ne leur étant pas encore attribués dans l'Avesta, cette fonction correspondrait à un développement secondaire. Notons que Daena, qui accompagne l'âme sur le pont de la séparation, est aussi présente dans l'onomastique de Nissa, tout comme Vahumana, qui dans les récits eschatologiques accueille les âmes des justes au paradis, assis sur un trône doré. Mary Boyce a fait remarquer que les noms nissiens formés avec les participes passés Burtak, sauvé, ne sont pas attestés avant la période part et elle propose avec prudence d'y voir un développement doctrinal basé sur le salut de l'âme par l'intermédiaire d'un juge. Il est assez tentant de reconnaître que la présence de ces divinités pourrait signaler que les croyances liées au sort de l'âme avaient une importance particulière pour le genre de Nissa et de sa région, et qu'elles étaient sans doute assez semblables à celles qui exprimaient les textes zoroastriens plus tardifs. Le matériel religieux de Nissa ne se limite pas au nom propre. Plusieurs astrakas mentionnent de l'effraction du vent de la part de Ayazan, mot que l'on peut traduire par « temple », ou littéralement « lieu du sacrifice ». C'est un terme proche de « Ayadana » attesté dans la version vieux perse de l'inscription de Darius Ier à Behistun. Malheureusement, nous ne savons pas quel genre de lieu sacré ces mots désignaient. On a parfois proposé de le comprendre non pas comme un lieu, mais comme simplement des rites. Mais étant donné que dans les ostrakas, le vent n'est jamais livré vers l'Aizan, mais il provient des vignobles d'Aizan, il est donc clair que l'Aizan part et l'Ayadana Achéménide sont bien des établissements religieux. Étant donné que qu'un temple fermé n'est connu en Iran dans les grandes cités royales, ni pour l'époque achéménide, ni pour l'époque parthe, il serait plausible d'envisager qu'Ayazan réfère à une plateforme cultuelle ou une terrasse sur laquelle les rituels étaient célébrés à ciel ouvert. Une confirmation indirecte provient du fait que le terme Ayazan n'est pas attesté dans la littérature moyenne perse des Sassanides, qui eux pratiquaient leur culte autour d'un feu permanent dans des temples fermés qui l'ont désigné par différentes appellations en relation avec le feu. Quatre ostrakas font mention du Ayazan Nanestavakan, qui est généralement traduit par temple du culte des Nana, ou littéralement lieu du culte pour l'éloge à Nana. Une autre mention est le vent livré du Ayazan Frahatakan, c'est-à-dire l'Ayazan de Frahatak. Contrairement à Nana, il ne s'agit pas d'une divinité, mais d'un nom propre, bien attesté pour le roi parthe. Ceci a incité Vladimir Lifshitz à proposer de l'interpréter comme un temple dédié au culte de Phraates, roi parthe divinisé. Cependant, à Nissa, il existait plusieurs domaines et vignobles nommés d'après des rois parthes à qui ils auraient peut-être appartenu. Il serait plus probable de voir un Ayazan Frahatakan, un lieu du culte, situé dans un domaine appelé Frahatakan. Une autre possibilité serait que ce temple ait été nommé d'après le propriétaire des terrains sur lesquels ils étaient bâtis. Ainsi, le propriétaire du terrain du Ayazan Frahatakan pourrait bien être le roi Phraates. Pour la période sassanide, il existe des témoignages des personnes possédant une terre sur laquelle s'est dressé des sanctuaires. Il existe encore un autre ostrakon donnant le nom d'un Ayazan, Ayazan Tirenak, donc lieu de Tirenak, lieu du culte de Tirenak, qui serait ici un nom propre, mais la lecture est trop incertaine. Sur un autre document, nous trouvons un toponyme, Artastavanak, soit lieu du culte pour Artha. En jugé par le nom, il est possible qu'il s'agisse d'un lieu sacré dédié à Artha. Malheureusement, nous ne savons pas à qui était dédié l'Ayazan anonyme, mais l'on possède des preuves irréfutables de l'existence des sanctuaires dans les environs de Nissa. Il serait utile d'ajouter que nous connaissons un autre terme part pour désigner les bâtiments sacrés, Bagin, qui dérive de l'ancien iranien Bagina, lieu de Dieu, lieu destiné aux dieux. Ces termes étaient certainement employés pour les temples fermés, mais ce témoignage se réduit à la Mésopotamie et nous ne connaissons rien de tel dans les documents des Nissa. En plus des lieux de culte, deux types de prêtres sont également mentionnés. L'un est Mog, le mage, et le second est Atorshpat, maître du feu. Nous ne savons pas quel culte ni quelle pratique cultuelle ils avaient en charge, mais on pourrait avancer que Atorshpat correspond au titre du prêtre chargé du feu royal d'un roi parthe. L'usage de ce que nous appelons le calendrier zoroastrien est également très important à Nissa, calendrier qui est un héritage de la période achéménide. Nous pouvons conclure de tout ceci que le climat religieux de Nissa, tel qu'il est dépeint par les ostrakas, présente une nette prédominance iranienne. Un grand nombre de choses nous rappellent le matériel religieux sassanide et les parallèles avec la tradition zoroastrienne sont également nombreux. Pourtant, l'usage des termes tels que Ayazan et Atorshpat, inconnus des Sassanides et des textes zoroastriens, révèle certaines différences dans les pratiques cultuelles des Nissa. Certains aliments, comme le calendrier liturgique, le titre des mages, le Ayazan et le culte Anana, sont probablement des héritages de la période achéménide. D'autres éléments, comme l'usage des noms théophores à deux composantes et le dieu Sassan Sessène, apparaissent pour la première fois à Nissa. Il est intéressant de remarquer que le matériel onomastique ne présente nulle trace d'une influence grecque dans la sphère de la religion. Pourtant, comme on l'a constaté au séminaire de la semaine dernière, toutes les données archéologiques portant une signification religieuse dont les ritons sont entretenus de caractère grec. Et il n'existe aucune preuve convaincante tendant à montrer que cette imagerie divine grecque caractéristique fut comprise par les Parthes comme des représentations des dieux iraniens. Je vous remercie.
Bien, donc... Oui, c'est sûr que, comme Michael le signale, il n'y a aucune trace du panthéon grec dans l'onomastique de Nisa, alors que, curieusement, on va en trouver dans d'autres régions et plus tard, puisqu'on sait depuis peu, en fait, que le nom du 11e mois du calendrier zoroastrien, tel qu'il était dans les variantes qu'il avait en Sogdiane, en Bactriane et en Sogdiane, c'était Déméter. Dans la forme la plus archaïque qu'on ait trouvée, Démitragan, c'est-à-dire le mois contenant la fête de Déméter, probablement les Thesmophories. Alors, d'où des hypothèses selon lesquelles le culte de Déméter aurait pu se retrouver culte associé avec le culte de Nana, lui aussi articulé sur des célébrations agraires, etc. Et on a un certain nombre de gens, je ne sais pas si c'est le cas en Bactriane, mais en Sogdiane, qui s'appellent par exemple Dremadvande, qui veut donc dire serviteur de Déméter. Donc il y a une infiltration du panthéon grec dans l'onomastique local, dans d'autres régions, mais pas du tout à Nisa. Il n'y a pas non plus d'infiltration de vocabulaire. On a cru à un moment, il était question de détachement des targmas, enfin de détachement on avait cru retrouver un terme romain, en fait.
Grec. Tagmadar.
Alors, tagmadar. On avait cru retrouver là un terme grec et mettre ça en rapport avec des prisonniers grecs lors des guerres entre les Arsacides et les Séleucides, etc. Tout ça est aujourd'hui abandonné. On a strictement... Alors, on se retrouve avec une société où, donc, la totalité du vocabulaire architectural et surtout pictural est d'origine grecque, et peut-être même d'exécution grecque, et la totalité... du stock onomastique est purement local. On a vu les noms des temples, les noms des agents du culte, etc. Deux réalités qui se sont évidemment combinées, mais dont il est très difficile de définir la nature de l'amalgame, puisque selon le type des sources qu'on a, on est dans un univers culturel quasi à 100% et dans un autre quasi à 100%. Alors, les choses se compliquent un peu à cause d'un nom fort problématique. Donc, Michael a parlé cette fois-ci et aussi la dernière fois. Ce nom s'écrit SSN. Dans l'écriture de Nisa, la vocalisation est très déficiente. SSN. Alors, on peut lire Sassan, ça rappelle quelque chose, la dynastie des Sassanides. On peut lire Sessen, qui rappelle aussi quelque chose d'autre, dont je vais être amené à parler. Alors, ce qu'on peut dire de certain, c'est que ce mystérieux Sassan ou Sessen, à Nisa, c'est un dieu. Parce qu'il entre dans des types de noms qui sont très clairement des noms qu'on dit théophoriques, en hommage à un dieu. On a Sassamdad, qui est donné par... On traduit parfois créé par, mais en fait c'est donné par... Le mécanisme est probablement que les parents ont prié pour la naissance d'un fils, se sont adressés à un dieu particulier, ils ont été exaucés, ils ont donc, c'est comme dieu donné, si vous voulez, c'est le même mécanisme. Est-ce qu'on a Sessenbort ? Est-ce que on a Sessenbort ? Sauvé, on a donc sauvé par Sassan, Sessen. Ça aussi, c'est typique. On ne trouve cet élément que dans le cas d'un nom composé sur le nom d'un dieu. Est-ce qu'on a Sessenbad ? Sessenbad, peut-être pas. En tout cas, on a ces éléments-là, donc c'est incontestable. Dès 1977, Lifshitz d'un côté, Gignoux de l'autre, ont écrit des articles sur l'apparition, voilà, l'attestation à Nisa d'un dieu mystérieux, mais qui est un dieu et qui est Sassan ou Sessen. Alors, il se trouve qu'on n'est pas... On ne part pas sans rien dans le raisonnement. Dans les deux cas, qu'on lise Sassan ou qu'on lise Sessen, on a quelque chose à quoi se raccrocher. Car en effet, dans le matériel d'époque sassanide, on trouve deux noms différents, Sassan et Sessen, attestés dans des contextes différents. On a d'abord Sassan. Alors là, en sassanide, en Pélévi sassanide, ça se vocalise clairement. Il y a deux alephes, donc deux allons. Donc on dit Sassan. C'est le nom du fondateur de la dynastie sassanide. Alors il se trouve qu'aucun de ses descendants sur le trône ne s'est appelé Sassan. Il y a quelques princes qui s'appellent Sassan. Le nom n'apparaît pas avec les Sassanides, il apparaît avant. On le trouve dans la dynastie dite des Indopartes, une branche des Partes qui régnait dans la région de Merv, Seistan, etc. Plusieurs princes, voire même... plusieurs mêmes souverains.
Maintenant, on le trouve aussi dans les nouveaux documents arméniens.
Ah oui, on l'a aussi. Alors oui, c'est pas. Ah oui, mais alors là, on ne sait pas si c'est Sassan ou Sessen. Ça nous aide pas. Parce qu'on a SSN dans les nouveaux documents achéménides tardifs écrits en araméen trouvés à Bactre. Bien. Ce Sasan, est-ce qu'on pourrait en faire un dieu ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait donc lire les noms de Nisa, Sasandad, Sasanbort, sauvé par Sasan, donné par Sasan. Est-ce qu'on peut en faire un dieu ? En l'absence de toute autre procédure, on peut essayer l'étymologie. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. On a essayé, rien n'est évident. En tout cas, dans l'Avesta, on ne trouve rien qu'on puisse rapprocher à cela. Alors, Mackenzie avait supposé quelque chose de très compliqué, un Sasnasya qui signifierait celui qui combat les ennemis. Mais c'était extrêmement peu convaincant. Une hypothèse qui a été proposée, c'est que c'est un dérivé en An, c'est-à-dire patronymique, ça veut dire en fait initialement de la famille de, c'est comme tous les noirs arméniens en An ou Yan, c'est exactement le même élément, ça veut dire que le Mouradian, c'est descendant de Mourad. Bon. Donc ce serait un dérivé patronymique d'un nom connu qui est Sars, qui est attesté par ailleurs. Alors Sars qui serait originellement Sasa, et Sasa serait lui-même un diminutif d'un type très bien connu dans beaucoup de langues. J'ai donc expliqué à Michael Schenker que s'il était français, sa famille l'aurait appelé Mimi. C'est ce qu'on appelle le diminutif réduplicatif. Ça existe en italien, c'est le diminutif de Salvatore. En persan, Soussou, c'est le diminutif de Soudabé. Bien. Ce serait un nom dérivé d'un autre nom qui aurait commencé par ça. Or, on a des noms commençant par ça dans l'onomastique parthe, même notamment royal. On a notamment Sanabar, qui est un nom attesté dans la dynastie indo-parthe. Alors, des Sanabar auraient pu se faire surnommer Sasa pour les intimes, et puis le nom finit par acquérir une autonomie, et on sortirait de là. Ça nous donne, tout ça, ça ne nous donne pas un dieu. Sanabarès, c'est celui qui vainc les ennemis. Alors on pourrait toujours dire est-ce que c'est un diminutif de un nom dérivé de quelle épithète applicable à quel dieu? Varam, le dieu de la guerre. Mais il est par ailleurs connu. Varam est connu dans l'onomastique de Nisa.
Oui.
Il peut pas se cacher derrière Sasan. Bien. Alors, ce qui complique... Alors, dans l'Iran sassanide, où Sasan est un nom bien attesté, on voit que ce n'est pas un dieu. Parce qu'on n'a jamais de nom, on n'a jamais Sasandad, on n'a jamais Sasanbort, on n'a jamais Sasanbad, protégé par. Il ne fonctionne jamais comme nom divin. Généralement, on le trouve seul, ou alors on a des noms doubles, Sasan, Mir Sasan, Sasan Adur... C'est typique des noms avec deux éléments juxtaposés. Sasan Adur, ça peut se comprendre comme un nom associant le dieu du feu et le nom Sasan. Ça peut se comprendre aussi feu de Sasan. Et tout ancêtre royal avait un feu. Ça peut être ça. Mais ça ne fait pas de Sasan. Ça fait de Sasan un ancêtre royal. Ça n'en fait pas un dieu. Et même à supposer que les Sassanides aient divinisé leur ancêtre, ce dont on n'a aucune espèce d'attestation, le nom apparaît à Nisa bien avant les Sassanides. Donc l'explication ne pourrait pas s'appliquer. Alors, on a par ailleurs, à l'époque sassanide, Sesen. Les uniques attestations de Sesen sont dans un répertoire tout à fait particulier, ce sont les sceaux ou amulettes magiques, où il est invoqué, avec un répertoire que vous voyez ici, qui est évidemment le répertoire de la magie prophylactique. Je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure. C'est un répertoire en fait transculturel qu'on retrouve sur les amulettes juives, on le retrouve sur les amulettes gréco-égyptiennes. C'est des symboles des symboles curatifs qui ont traversé les frontières. Bien. Alors, sur un sceau, il est indiqué comme Sécène le dieu, Sécène le protecteur. Donc, on voit bien là, il s'agit d'un dieu. Bon. Alors, ici, on a... je vais d'abord montrer un autre document. Oui, alors, Sécène existe toujours dans la magie juive. Voilà un traité magique imprimé à Amsterdam en 1700, où on a une triade de... Alors, je crois qu'on les appelle en fait des anges, qui sont invoqués pour la protection contre diverses maladies, et qui s'appellent Sécène, Sécène Glof, alors on sait que c'est Sécène Angelos, et Sécène quelque chose. C'est toujours pratiqué dans la magie juive aujourd'hui.
Sanoï.
Sanoï. Semen Glof. Alors, voilà un des documents les plus intéressants. C'est une amulette du Metropolitan Museum. Ça se présente, comme c'est souvent le cas, en fait, dans les formules magiques, comme une lettre que l'intercesseur qu'on invoque écrit au démon méchant pour lui dire de se calmer, pour le menacer. Donc, c'est une lettre. Et il y a la formule, et puis il y a la formule épistolaire, il y a les salutations, il y a toute la politesse. Alors, Sécène écrit au démon Sécène Marg. Donc, le nom est évidemment formé en réflexion sur lui, ça veut dire mort à Sécène. Pour lui intimer l'ordre, alors là, c'est assez intéressant, de libérer une jeune fille qui est en son pouvoir. Et il dit relâche-la vers le haut. Laisse-la remonter. Donc il y a une thématique du haut et du bas. Il l'a entraîné dans les profondeurs. Alors le démon Sécène Marg, on voit bien qu'il y a là derrière un substrat mésopotamien, parce qu'il est qualifié par un terme emprunté au syriaque, Mikares, qui veut dire destructeur. Par ailleurs, ça se termine avec ainsi soit-il, et il y a une croix chrétienne au milieu de la formule. On sait que assez souvent, les amulettes magiques sassanides étaient sous-traitées à des juifs ou à des chrétiens parce que ça permettait d'exempter l'acheteur du péché de sorcellerie, puisqu'il n'avait pas fait faire son amulette par un zoroastrien. Bien. C'est des petites astuces. Alors, voilà un sceau du musée de Berlin. Alors là, l'ordre, c'est un nommé Asp Sécène. Fils de Sécène-Bad. Bon, alors donc on voit très bien, c'est une onomastique de fantaisie formée sur le nom Sécène, qui donne un ordre à un démon. Alors, il est aussi question d'une jeune fille que le démon doit laisser remonter des profondeurs. Et il est dit dans une formule assez obscure, elle a été frappée sur l'oreiller, elle a été oppressée. Alors, dans les deux cas, faire remonter donc quelqu'un de frapper sur l'oreiller, on pense à une situation de détresse respiratoire. Et ça, c'est typique des exorcismes pour les femmes en couche. Parce que l'un des principaux dangers qui, avant la médecine moderne, menaçait la femme en couche, c'était l'éclampsie, qui est donc une situation de détresse respiratoire au moment de l'accouchement. Alors, il se trouve qu'en syriaque, Sécène-Gen, qui est formé sur Sécène, est un des noms de l'épilepsie. Et dans la médecine ancienne, l'épilepsie était souvent confondue avec l'éclampsie, puisque les symptômes en sont quasiment les mêmes. Bien. Alors, l'iconographie n'est pas sans intérêt. Alors, voilà, ça c'est donc le sceau de... Oui. C'est donc... le sceau du Metropolitan Museum. Alors, vous voyez que la formule magique encercle, embobine vraiment l'image du démon de façon à l'emprisonner. Parce qu'on a aussi une thématique du démon lié. Bien. Alors, c'est un démon ou une démonesse. Iconographiquement, c'est exactement ce qui, dans la magie juive aujourd'hui, s'appelle une Lilith. C'est ces femmes aux cheveux ébouriffés qui sont considérées comme des sorcières ou des démonesses qui étranglent les enfants, les enfants nouveau-nés, ou qui s'attaquent à leur mère. Apparemment, il y a un mouvement féministe israélien maintenant qui s'appelle les Lilith. et qui, justement, par réaction contre la prescription de couvrir la chevelure, j'ai vu ça, la prescription de couvrir la chevelure, qui, c'est les femmes qui assument le fait d'avoir une chevelure libre, et qui, le mouvement s'intitule les Lilithes. C'est moi qui vous apprends ça, Michael. Voilà, j'ai lu ça quelque part. Bon. Voilà, alors, le sceau de Berlin, en fait, il a une iconographie vraiment assez spectaculaire. Au milieu, à l'avers, je n'ai pas la photo ici, est représenté un personnage de type royal, avec des rubans, donc on pense que c'est Cécène, le gentil, celui qu'on invoque. Et au revers se trouve un personnage de type démoniaque, ityphalique, qui est en fait, il ne tient pas des lances, sur certaines versions, on voit qu'il est assujetti par les lances. On l'appelle l'archédémon, faute de lui trouver un autre terme. Dans le contexte de cette inscription, enfin bon, dans certains cas, on devait l'appeler Cécène-Marc, dans certains cas, c'est l'espèce de démon générique à qui on peut donner des noms différents selon les circonstances. Alors, on a dit qu'il avait une armure métallique. Moi, je pense plutôt qu'il est représenté avec une carapace d'insecte, puisqu'il y a une association entre l'insecte et le démon. Alors, il est entouré de toutes sortes d'animaux, dont certains sont des intercesseurs, les coqs, qui sont le symbole du dieu Sroch, le dieu de la prière, et un scorpion, une grenouille, enfin des animaux qui en gênent, un singe, donc des animaux qui sont plutôt classés dans la catégorie démoniaque par les zoroastriens. Alors il y a en bas un petit canidé, il se trouve que l'inscription mentionne une belette, et on ordonne aux démons d'accueillir la belette qu'on envoie en bas. Pourquoi une belette? Alors ça rappelle que dans la magie grecque, la belette, qui est un animal qui peut se faufiler partout, est supposé aider les femmes en couche. C'est le mythe de la naissance d'Héraclès. Héraclès est trop gros comme bébé, sa mère Alcmène est en détresse respiratoire, et sa servante, dont Alcmène, je crois que c'est Alcmène, lui envoie... sa servante la délivre par un charme magique. Et Héra, furieuse, évidemment jalouse de la mère d'Héraclès qui a été conçue de Zeus, transforme la servante en belette, laquelle va devenir l'assistante de la déesse Hécate et aidera lors des accouchements. Voilà, la belette est un animal magique qui a la capacité d'ouvrir les orifices. Donc, on l'utilise, elle est invoquée pour les accouchements. Là, il y a une belette apparemment ici et elle est mentionnée dans l'inscription. Donc vous voyez le contexte, c'est clairement un contexte de magie internationale, transculturelle, où on retrouve des éléments. On dit souvent que dans l'Antiquité, les démons voyageaient beaucoup plus vite que les dieux. Et j'en suis moi-même vraiment persuadé. Et alors là, justement, alors, autre exemple de magie, de thème transculturel, vous avez ici une louve qui tourne la tête. C'est la louve du Capitole, c'est la louve romaine. Et elle allaite deux jumeaux, on va dire Romulus et Rémus, mais non, c'est adapté parce que les jumeaux en question, il y en a un qui est un petit humain et l'autre qui est un petit loup. Et on voit ça mieux sur d'autres images. Alors, voilà. Et plus tard, ils vont se retrouver et s'affronter. C'est le revers du même sceau. Le petit humain tient une massue, et voilà un petit homme loup-garou ityphalique que l'autre va combattre. Et évidemment, on pense à une histoire classique en démonologie, c'est que le génie intercesseur et le démon ont été des frères de lait. Ils ont été allaités par la même mère. Et donc, ils se connaissent. Et donc, le dieu, finalement, intercesseur, ayant un passé chez les démons, a la capacité d'agir sur eux. Bien. Et ce serait probablement donc Cécène et son frère de lait, ici Cécène-Marc. Alors, pour continuer sur Cécène, il a une carrière très longue, puisqu'il apparaît sur cette amulette d'Arslan Tash en Syrie du Nord, trouvée et publiée avant la guerre, comportant une inscription araméenne à caractère donc magique. il est invoqué comme Sassam Sessem Ben Padr, qui est invoqué contre les étrangleuses, Ramkat, et les volantes, Apta. Et on a à la verre ce qui est évidemment Sessen, muni d'une hache. Donc on voit qu'on est déjà très près de l'iconographie sassanide avec Sessen et sa massue. Et au revers, une louve, comme ce qui va après être réadapté en louve romaine, qui avale ou peut-être s'apprête à dégurgiter sous la contrainte un petit humain. Et au-dessus, on a une sphinge. Et les Grecs ont emprunté les sphinx à la Mésopotamie, mais dans la démonologie, les sphinges sont des étrangleuses. C'est-à-dire le sens étymologique du mot grec. Sphinx, ça veut dire une étrangleuse. Donc, bien entendu, ces deux personnages redoutables sont des proto-lilithes. Ce sont des démons qui sont une menace pour le nouveau-né ou sa mère. C'est déjà la même thématique. Si le Sessen de Nisa, le dieu Sessen de Nisa, est celui-là, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous montre la promotion tout à fait remarquable dans une onomastique par ailleurs bien strictement zoroastrienne, assez strictement zoroastrienne, à part Nana qui est un cas particulier, d'un être surnaturel invoqué dans des contextes de magie périnatale. Évidemment, on imagine très bien une raison impérieuse, une raison forte pour laquelle le tabou, s'il y en avait un, était transgressé, et où les parents appelaient leur enfant Sessène. Si l'enfant avait réchappé à une maladie, à une naissance difficile, ou qu'on veuille lui éviter des maladies infantiles. On sait très bien, par exemple, que dans les fratries où j'ai des parents qui ont perdu un ou plusieurs enfants à cause d'une maladie infantile ou d'un accouchement qui s'est mal passé, la tendance a été observée par l'ethnographie de donner plus souvent qu'à d'autres aux enfants qui suivent des noms protecteurs. Bien. Alors ça pourrait s'expliquer comme ça. Hypothèse à laquelle, disons, vers laquelle provisoirement vont mes faveurs, est celle qui a été présentée par Martin Schwartz dans des articles assez retentissants dans les années 90, où il expliquait avec beaucoup d'enthousiasme que le dieu qui sur Terre a eu, au moins dans le bassin méditerranéen, a eu la plus longue carrière connue, c'est Sessen, puisqu'il apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ à Arslantash, et il est toujours invoqué dans la magie juive. Bien. Il y a quand même des objections. C'est que dans le matériel sassanide, Sessen apparaît dans les contextes magiques, mais pas dans le nomastique. On a Sassan, on n'a pas Sessen, il n'apparaît pas. En Asie centrale, si c'est bien Sessen, on le retrouve ni en Bactriane, ni en Sogdiane. C'est-à-dire qu'il serait vraiment... Il y aurait une dévotion particulière à Sessen, à Nisa ou chez les Parthes. Bien. En Parthienne, du moins. Michael me faisait également cette remarque qu'on s'attendrait à le retrouver dans un contexte mésopotamien d'époque parthe, si c'est de là qu'il est venu. Or, on ne le trouve pas dans le nomastique en Mésopotamie même, à cette époque. Enfin, attention, non, justement, il y a des exceptions. En tout cas, on ne l'a pas dans le matériel des sceaux, des tessers de Hatra et de Palmyre, où on s'attendrait à le trouver. Ceci dit, il existe dans le nomastique. puisqu'on a au moins deux exemples. C'est le successeur de Mani à la tête de l'église manichéenne s'appelait Sicinius. Donc, très vraisemblablement, il lui doit son nom.
Et on a
un saint Sicinios à Byzance qui, comme par hasard, est invoqué dans des contextes. De magie curative, etc.
Mais on ne sait pas si c'est le nom de Dieu.
Non, mais il est... C'est
donc Sassan, comme un père sassanide.
Oui, mais il est vocalisé avec un yod. Il n'est pas vocalisé, et à ce moment-là, on sait faire la différence. Alors, il y a pu y avoir, de toute façon... Il est évident qu'à partir d'un certain moment, il y a pu y avoir une analogie superficielle de noms qui était ressentie entre Sassan et Sécène, puisque sur le sceau du métropolitain que j'ai montré tout à l'heure, mais enfin, ça, c'est la partie que j'ai pas, la verre que j'ai pas montré, il est représenté un peu comme un roi sassanide. Et par ailleurs, il y avait à l'époque, en Iran islamique, une secte de derviches qui avaient des pratiques magiques, etc., qui s'appelaient les Banu Sassan. Alors, on a soupçonné qu'ils remontaient à ces pratiques thaumaturgiques. Alors, on voit très bien avec ce matériel que, mais ça, on s'en doutait depuis longtemps, et notamment, Shaul Shaked a été un des premiers à l'affirmer avec vigueur dans un livre qui lui a valu de se brouiller définitivement avec Mary Boyce. La religion de la population sassanide ne saurait se réduire à la pratique zoroastrienne. Il y avait des pratiques magiques, il y avait des pratiques et qui invoquaient éventuellement un panthéon qui n'était pas du tout zoroastrien, qui se cache, qui trouvait une espèce de justification dans le fait que ces articles de magie étaient achetés à des gens qui n'étaient pas des membres de la communauté. Par ailleurs, il semble qu'il a existé à l'époque sassanide une version politiquement correcte de ces scènes. C'est que certains sceaux et certains textes représentent dans le même rôle de protecteur contre les démons un héros des anciens temps tout à fait orthodoxe qui est Faridun. Fredon, lequel a remporté une victoire sur un démon, sur le démon serpent Ashdaha, Zahak plus tard. Donc, ce qui fait que il a pu être utilisé. On dit qu'on fait des prières pour son âme, on ne dit pas que c'est un dieu. On dit qu'on prie son âme pour être protégé contre les maladies et les morsures de serpent. On a l'impression d'une réinterprétation orthodoxe permettait de légaliser les pratiques qui s'adressaient normalement à ces scènes en les faisant rentrer dans le giron du panthéon zoroastrien. Alors voilà, donc l'onomastique de Nisa nous livre-t-elle un aperçu sur ces pratiques ou bien doit-on encore chercher un dieu sassan? La question est ouverte et actuellement divise les spécialistes. Michael est du côté de Shaul Shaked, c'est-à-dire qu'il pense que c'est bien Sassan.
Anissa, oui. Parce que c'est le dieu.
Oui, mais si c'est Sessen, c'est aussi un dieu. Voilà. Alors, on dit un dieu spécifique aux Parthes. Ils auraient hérité de leur passé, peut-être nomade, ce dieu Sassan. Le problème, c'est qu'on sait bien qu'ils ont hérité quelque chose de leur passé nomade. Il y a un certain nombre de mots dans la langue parthe qui sont en fait des mots scythiques, qui ne sont pas des mots qu'on attend dans la région où ils se sont finalement établis, l'appartiennent. Bien. Mais on n'a aucune attestation par ailleurs. On n'a absolument rien ne nous permet d'établir l'existence d'un dieu sassan en milieu stépique. Ceci dit, il y a toutes sortes de dieux en milieu stépique dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Puisque nous n'avons guère que Hérodote, et il se trouve qu'il n'est pas dans la liste d'Hérodote. Voilà ce qui pouvait être dit. Donc vous voyez, ce matériel de Nisa, il est vraiment intéressant parce que, je dirais, ça rebondit tout le temps. dès qu'on commence à soulever un coin du voile, on s'aperçoit qu'on peut débobiner toutes sortes de sujets qui ne sont pas fermés, qui méritent qu'on continue à travailler dessus. Et j'encourage donc fortement Michael Schenker et Samra Azarnouch à poursuivre leur recherche sur ces documents de NISA, puisque actuellement, apparemment, personne ne travaille dessus. Il est évident qu'il reste beaucoup de choses à dire. Et bon, il se trouve que les grands savants qui avaient... Lifshitz étant très âgé, travaillant sur autre chose, Mary Boyce étant décédé, Diakonoff étant décédé, Mackenzie étant décédé, le dossier reste en souffrance et certainement il mérite mieux que ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. La prochaine fois, ce sera entièrement sur Aïr-Hanoum, puisque je continuerai la visite guidée grâce aux restitutions de Guy Lécuyot. Et en heure de séminaire, c'est Guy Lécuyot lui-même avec qui nous discuterons sur un thème particulier de l'archéologie d'Aïr-Hanoum, qui est les maisons privées, puisqu'il vient de remettre à la publication, en collaboration avec plusieurs des anciens fouilleurs d'Aïr-Hanoum, dont Henri-Paul Francfort, dont Paul Bernard, le volume sur l'habitat privé d'Aïr-Hanoum. Voilà, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, en espérant que...